VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 18h30, temps universel. Le Monde Aujourd'hui, édition du jeudi 18 mai 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, Burundi, trois jeunes pro-régime ont été tués par l'explosion d'une grenade. Congo-Brazzaville, la coalition Tournons la Page appelle au report des législatives de juillet. En République démocratique du Congo, un reportage sur les enfants exploités dans les mines d'or dans le sud Kivu avec notre correspondant Ernest Mouhero.
Moi, j'ai 7 petits frères et je dois mourir. Quand j'ai 10 000 francs le jour, je leur donne 5 000 francs.
Le président américain Donald Trump s'est dit victime de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Retrouvez Nicolas Pineau à la fin de ce journal pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. Au Burundi, trois jeunes pro-régime ont été tués par l'explosion d'une grenade. Membres des Imbonerakure, la ligue de jeunesse du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, étaient réunis dans une maison de Gikoto dans le quartier de Musaga, dans le sud de Bujumbura, au moment de l'attaque. C'est ce que rapporte l'AFP. Cette maison leur servait de quartier général où ils se retrouvaient presque tous les soirs, selon plusieurs témoins. Au Congo-Brazzaville, une coalition d'ONG a appelé au report des élections législatives prévues le 16 juillet. Elle estime que les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d'un scrutin transparent, les précisions de Dili Diko.
Sur décret du président Sassou Nguesso, le premier tour des législatives devrait se tenir pour la première fois en même temps que les élections locales et municipales le 16 juillet. 151 sièges sont à pourvoir. La nouvelle assemblée aura 12 députés de plus et le second tour est prévu le 30 juillet. La coalition Tournons la Page demande l'ajournement des élections jusqu'à ce qu'une refonte du fichier électoral soit faite. Les autorités ont lancé depuis la semaine dernière une opération de révision des listes. La coalition d'ONG souhaite aussi la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante et s'interroge sur l'utilité d'un scrutin sans garantie de transparence depuis la réélection de M. Sassou Nguesso en mars 2016. Selon cette coalition, la région du Poule, théâtre de violence, devrait être une priorité absolue du gouvernement car des milliers de personnes déplacées ne pourront pas voter.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'un vaccin expérimental contre le virus Ebola pourrait très rapidement être testé dans la zone du nord-est de la République démocratique du Congo, touchée par une épidémie. Conséquence de l'évasion de la prison de Makala en République démocratique du Congo, la police appelle la population de Kinshasa à dénoncer la présence éventuelle de détenus fugitifs dans leur voisinage. Mercredi, un nombre indéterminé de détenus, probablement des milliers selon diverses sources, se sont évadés de la grande prison de Kinshasa après une attaque nocturne contre cet établissement surpeuplé. Une dizaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos ont été interdites dans plusieurs zones de l'ouest du Niger en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui les autorités locales et l'ONU. Salwa Jafari nous en dit plus.
L'espoir n'a été que de courte durée. La jeune Maria Mohamed Issa est bien lycéenne à Chibok, mais elle ne fait pas partie des 219 adolescentes kidnappées en 2014. Jeudi, les autorités nigérianes ont apporté ce démenti formel après avoir annoncé le contraire la veille. Les doutes avaient commencé avec l'identité de la jeune fille postée sur le compte Twitter de la vice-présidence. Le mouvement Bring Back Our Girls, qui fait campagne depuis 3 ans pour la libération des jeunes filles de Chibok, a aussitôt répliqué « Nous ne retrouvons pas son nom ». On ignore encore quand la jeune Mariam a été enlevée. Les filles de Chibok sont devenues, malgré elles, le symbole des enlèvements perpétrés par Boko Haram. Il y a quelques jours, 82 lycéennes ont été relâchées grâce à la médiation de la Croix-Rouge et de la Suisse.
Voilà, il s'agissait bien évidemment d'une erreur technique. Hein. Donc on revient sur le Niger. Hein. Une dizaine de marchés ruraux ont donc été fermés et la circulation de voitures et motos interdite dans plusieurs zones de l'ouest du pays en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali. On écoute Salwa Jafari.
Ces mesures entrent dans le cadre de l'état d'urgence reconduit à la mi-mars pour 3 mois face à la persistance des attaques dans plusieurs départements de Tillabéri et Taoua, limitrophes du Mali. Dans cette zone enclavée, les motos sont devenues les principaux moyens de déplacement des assaillants qui se ravitaillent en vivres et carburant sur les marchés locaux. L'état d'urgence accorde des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour comme de nuit et des fouilles, y compris dans les camps de réfugiés maliens établis dans ces régions. Au total, 16 marchés ruraux ont été fermés selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Niamey. L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 dans les régions de Tillabéri et Taoua, où des djihadistes armés visent régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés.
Les troubles politiques en Zambie, le Parlement européen se dit préoccupé par l'arrestation et l'incarcération en avril du chef de l'opposition, Hakainde Hichilema, accusé de trahison pour avoir gêné le convoi du chef de l'État, son rival à la présidentielle, Edgar Lungu. Dans une résolution, les eurodéputés évoquent des éléments indiquant que les accusations contre M. Hichilema seraient dues à des motivations politiques et appellent les autorités zambiennes à enquêter sur des allégations de mauvais traitements que le chef de l'opposition aurait dû subir en prison. Lutte contre l'immigration en Méditerranée, la Libye a demandé à l'Italie d'armer les vedettes des gardes-côtes libyens pour faire face aux trafiquants armés. Et la capitale du Gabon, Libreville, accueille jusqu'à vendredi une rencontre sur les afro-descendants, un événement consacré à la traite atlantique et qui s'inscrit dans le cadre de la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024. Cette initiative, proclamée par les Nations Unies, vise à reconnaître un groupe dont les droits humains doivent être promus et protégés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président américain Donald Trump s'est dit victime de la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine au lendemain de la nomination d'un procureur spécial dans l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle. Les précisions de John Lindon.
Dans une série de tweets matinaux dont il est coutumier, Donald Trump a dénoncé la plus grande chasse aux sorcières contre un homme politique dans l'histoire américaine. Cette réaction fait suite à la nomination mercredi de l'ancien directeur du FBI, Robert Mueller, comme procureur spécial pour garantir l'indépendance de l'enquête sur une éventuelle collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie. Une décision applaudie par de nombreux élus démocrates et républicains. Donald Trump accuse également la campagne d'Hillary Clinton et la présidence de Barack Obama d'actes illégaux pour lesquels, dit-il, un procureur spécial n'a jamais été nommé. Le milliardaire républicain s'était déjà plaint mercredi d'être maltraité par les médias. Selon le New York Times, le président aurait demandé à James Comey, le directeur du FBI, qu'il a limogé par la suite, de ne pas poursuivre l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie. Si cette information est confirmée, cela pourrait constituer une tentative d'entrave à la justice.
Aux États-Unis toujours, les arrestations de clandestins ont augmenté de près de 38% pendant les 100 premiers jours de la présidence de Donald Trump par rapport à la même période de 2016, selon de nouveaux chiffres publiés par la police fédérale des frontières. Sur ce total, près de 3/4 avaient déjà été condamnés, dont plus de 2700 pour des crimes violents, a précisé l'agence. Nouvelle attaque du groupe État islamique dans le centre de la Syrie. À l'aube, les djihadistes ont bombardé massivement 2 villages dans l'est de la province de Hama avant de les attaquer. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, précisant que les assaillants avaient pris position sur les hauteurs et sur les toits des maisons. On compte plus de 50 personnes tuées, dont la moitié est des miliciens pro-régime. Sur le plan politique, les représentants du régime et de l'opposition ont accepté, dans le cadre des pourparlers de paix qui ont repris mardi sous l'égide de l'ONU à Genève, de discuter d'une nouvelle constitution, sujet majeur à l'ordre du jour. Certains pays de l'OTAN estiment qu'il faut envoyer un signal politique en rejoignant formellement la coalition contre le groupe djihadiste État islamique. Mais il n'est pas question de s'engager dans des opérations de combat. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui son patron, Jens Stoltenberg. Les États-Unis, qui dirigent cette coalition internationale, menant depuis 2014 des frappes aériennes contre l'État islamique en Irak et en Syrie, demandent depuis plus d'un an que l'OTAN en devienne un membre à part entière. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Claire Morin-Gibourg, la Minute Éco.
En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a inauguré aujourd'hui à Bangui un nouveau complexe agro-industriel dont l'ambition est de produire au moins 12 000 bouteilles d'eau par jour. L'usine devrait employer près de 300 personnes. La RCA, qui connaît un problème en eau potable, devrait, avec cette unité agro-industrielle, réduire la quantité d'eau en bouteilles qu'elle importe, notamment du Cameroun. En République du Congo, la société française Samdia va construire une unité de production industrielle agroalimentaire à Pointe-Noire. Ce projet est composé d'un moulin qui devrait produire quelque 70 000 tonnes de farine de blé, une usine d'alimentation animale située dans l'enceinte portuaire et un élevage de plus d'un million de poussins en périphérie de Pointe-Noire. 70 emplois directs et une centaine d'emplois indirects seront ainsi créés. Au Cameroun, résultat étonnant d'une étude comparative du ministère de l'économie. Les opérateurs économiques chinois ont une forte tendance à créer des entreprises sans gros investissements au départ et réalisant des bénéfices immédiats mais faibles. Les PME françaises, plus orientées vers la production, apportent deux fois plus de croissance.
Au pas de course, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Cannes des moins de 17 ans au Gabon, deuxième journée.
À suivre ce jeudi dans le groupe B, Mali, Niger. Un peu plus tôt cet après-midi, la Tanzanie et l'Angola s'affrontaient. Et ce sont les jeunes Tanzaniens qui s'imposent 2-1. Hier, deuxième gifle pour le pays organisateur. Les Panthères gabonaises ont encore pris 5 buts hier soir à Port-Gentil face au Ghana. Une défaite 5-0, 10 buts en 2 matchs. Après la première déroute infligée par la Guinée lors de la première journée du groupe A, les Black Starlets se qualifient pour les demi-finales de la compétition et pour la Coupe du Monde de la catégorie. Quant aux Camerounais qui en avaient pris 4 lors du premier match, ils se sont repris, score final 1-1 contre la Guinée.
Premier titre de la saison pour la Juventus.
La Juventus a remporté la Coupe d'Italie pour la 12e fois de son histoire, la 3e fois d'affilée, en battant en finale la Lazio de Rome 2-0, intraitable. Les Turinois sont sur le point de réaliser le doublé championnat Coupe pour la 3e saison consécutive. Pour la Serie A, il faudra attendre encore un peu pour les leaders qui ont 4 points d'avance avec 2 matchs encore à jouer.
Et en Espagne, le Real Madrid a fait un pas de plus vers le titre.
En écrasant le Celta Vigo 4-1 hier soir en Galice en match en retard de la 21e journée, le Real Madrid n'a désormais plus besoin que d'un point lors de la dernière journée pour être sacré champion d'Espagne. Il suffira d'un nul au Real sur la pelouse de Malaga dimanche pour être certain de remporter une Liga qui lui échappe depuis la saison 2011-2012.
Tennis, Master de Rome.
Oui, l'américaine Venus Williams, 12e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Rome grâce à sa victoire en 3-7, 6-1, 3-6, 6-1 sur la Britannique Johanna Konta. Chez les hommes, le Suisse Stanislas Wawrinka, 3e joueur mondial, a lui été éliminé en 8e de finale de ce Masters de Rome par l'américain Josh Isner, 24e joueur mondial. L'américain s'est imposé en 7-6, 6-4. En quart de finale, Isner affrontera le croate Marin Cilic, qui a nettement battu le belge David Goffin en 6-3, 6-4.
Et enfin, NBA, championnat de basket nord-américain, première manche de la finale de la conférence Est.
Cleveland est sans rival dans la conférence Est. Grâce à LeBron James survolté, les Cavaliers se sont imposés à Boston 117 à 104 et se sont offerts leur 12e victoire consécutive en playoff. Le triple champion NBA et quadruple meilleur joueur de la NBA, LeBron James affole les statistiques depuis le début des playoffs et continue d'impressionner. Il a marqué 38 points hier, dépassant les 35 points pour le 5e match consécutif, en affichant une moyenne impressionnante de 34,8 points par match lors de ses playoffs.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Au Niger, des mesures sont entrées en vigueur aujourd'hui dans plusieurs zones des régions de Tillaberi et de Tawa, dans l'ouest du pays, en raison d'infiltrations terroristes venant du Mali voisin. Une quinzaine de marchés ruraux ont été fermés et la circulation de voitures et motos a été interdite dans ces zones. Pour une analyse, Jacques Aristide a joint Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement.
Le gouvernement a pris des mesures pour l'état d'urgence dans ces régions-là parce qu'elles sont confrontées à l'insécurité. Aujourd'hui, il n'y a ni moto ni voiture qui circulent dans ces régions-là, comme ça s'est passé au fort moment de la lutte contre Boko Haram au sud du pays.
Mais y a-t-il une certaine réticence de la part des habitants, pensez-vous, face à de telles mesures qui paraissent assez draconiennes? Parce que là, justement, on est en train de parler de nombreux marchés ruraux fermés et de la circulation de voitures et de motos interdites, et même de manière permanente dans certains cas.
Oui, vous savez, le gouvernement n'a pas tenu compte de certains effets, notamment la fermeture de ces marchés et de ces boutiques, ce que ça peut engendrer sur le vécu de population aujourd'hui. Le Niger actuellement traverse une crise alimentaire dans beaucoup de régions et le gouvernement n'a pas tenu compte de ces aspects-là quand il a pris ces mesures d'état d'urgence dans ces régions. Il y a des djihadistes qui font des infiltrations dans cette bande qui va de Tawa aussi le long de la frontière avec la région de Tillaberi. Donc, ces populations vivent des moments difficiles face à ces mesures du gouvernement.
Des mesures difficiles, mais importantes.
Oui, elles sont importantes pour la sécurité, mais en amont, quand on prend ce genre de mesures, on informe les populations, il faut les aider, il faut leur apporter du soutien. Comme ça s'est passé par le passé dans la région d'Agadez et aussi à Diffa, il faudrait que le gouvernement, les autorités nigériennes fassent un effort pour appuyer ces populations qui, aujourd'hui, n'ont plus de marché. Les boutiques sont fermées, la circulation est interdite dans ces régions-là. C'est des zones frontalières avec des va-et-vient le long de ces frontières-là. Ça permet un échange économique avec certains pays frontaliers. Donc, le gouvernement n'a pas pris de mesures idoines à atténuer les souffrances des populations face aux conséquences de cet état d'urgence-là.
L'ONU dit avoir répertorié 34 attaques perpétrées depuis février 2016 par des groupes armés dans les régions de Tillaberi et Tawa. Pensez-vous que ces mesures vont vraiment pouvoir aider à affaiblir ces groupes?
Non, pas du tout. Ces mesures ne vont pas affaiblir ces groupes-là qui sont très mouvants et qui se fondent dans les populations. Donc moi, je pense que c'est d'autres choses plus réfléchies qu'il faudrait faire.
Voilà, c'était Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement. Il était en ligne de Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouti.
Les enfants réfugiés soudanais installés dans 4 camps dans l'est du Tchad font face à une malnutrition qualifiée de critique par les acteurs humanitaires opérant sur le terrain. Une situation due à la réduction de la ration alimentaire ces dernières années. André Kodmajingar s'est rendu dans le camp de Ouré et Kassoni. Son reportage.
C'est le cri d'un enfant malnutri en consultation au centre nutritionnel situé en plein désert à 55 km de la ville d'Angaras et à 7 km de la frontière Tchad-Soudan. Le camp de Ouré Kassoni est le plus grand camp de réfugiés soudanais ayant fui la guerre du Darfour depuis 2003. Et c'est ici que la prévalence de la malnutrition est très élevée. Pour preuve, les résultats de l'enquête menée en décembre dernier ont présenté une prévalence de la malnutrition aiguë globale de 18,9%, la malnutrition aiguë sévère de 3% et la malnutrition chronique de 20%. 20%. Docteur Diouf, lui, Martin, coordonnateur santé pour la sous-délégation du ISR Diriba, explique le mécanisme de la prise en charge des enfants malnutris.
Nous avons trois unités. Une unité qui s'occupe des malnutritions sévères avec complications. On a aussi ce qu'on appelle les UNA, donc qui s'occupe des malnutritions sévères sans complications. Et une autre unité qu'on appelle les unités nutritionnelles supplémentaires qui s'occupe seulement des malnutritions modérées.
Pour lutter contre la malnutrition qualifiée de critique par les acteurs humanitaires dans la zone, l'OISR lance un nouveau système de diversification des denrées alimentaires avec un programme de prévention. Ce programme vise à augmenter la rançon alimentaire de 800 calories à presque 1260 kcal par personne et par jour. Le chef de bureau du ISR d'Ambiaras Diallo Bemba explique les modalités de distribution des coupons aux bénéficiaires.
Ce programme prévoit 10 000 francs CFA par femme allaitante et par femme enceinte. Nous avons au total 1480 femmes dans le programme, mais pour diminuer les charges, au lieu de faire une distribution chaque mois, on a planifié 3 distributions. Donc, au lieu que les femmes aient 10 000 francs par mois, cette distribution, c'est 20 000 francs. Donc, chaque coupon représente 2 000 francs. On a identifié les commerçants réfugiés qui se sont organisés en 4 groupes. Le premier groupe, c'est le groupe des femmes avec une gamme de denrées alimentaires. Le deuxième groupe, avec la viande, les volailles. Le troisième groupe, les céréales.
La situation de la malnutrition dans le camp de Wurekasuni en particulier s'explique également par son environnement aride et désertique. Un environnement caractérisé par la rareté de la pluie, même en saison pluvieuse, comme en témoigne le délégué régional de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion de réfugiés, Ousmane Brahim Niman.
Le camp de Wurekasuni est situé dans un désert. Le terrain est là, mais il n'y a pas la saison pluvieuse. Il pleut une fois ou deux fois par an. Ça, je crois, c'est insuffisant de faire la culture maraîchère dans la zone.
André Kodnumadjingar, Amdjaras, pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap sur la République démocratique du Congo, Amnesty International s'inquiète une fois de plus du travail des enfants dans les mines. Notre correspondant Ernest Mouhero a rencontré des enfants travaillant dans des conditions périlleuses, plus de 12 heures par jour dans des mines d'or à Kamituga, dans le sud Kivu. Voici son reportage.
Ils sont de centaines les enfants qui travaillent dur dans les sites miniers du Sud Kivu, aux côtés des creuseurs artisanaux, selon l'organisation Justice pour tous, dans la cité aurifère de Kamituga, à 180 km à l'ouest de Bukavu. Nous trouvons un grand chantier minier à découvert dans la localité de Kitembamero, au quartier Chanda. Le président de la nouvelle dynamique de la société civile en territoire de Mwenga sort les statistiques. Moiti Mwendambali Benoît.
L'exploitation artisanale occupe presque 99% de la population ici, 70% d'enfants ici ne fréquentent pas l'école.
À première vue, d'innombrables tunnels tels des labyrinthes frappent le regard avec un enchevêtrement des tuyaux qui facilite la respiration dans les sous-sols. Le site est coiffé de petites constructions sommaires en bâche couleur bleue où certains creuseurs reprennent des forces ou se nourrissent. Parmi eux, des enfants et adolescents qui, insouciants, transportent à longueur des journées des sacs lourds contenant du sable déjà trié pour qu'à leur tour ils le lavent, tamisent, afin d'en tirer des déchets d'or. David a 16 ans, il a abandonné les études en 4e année primaire.
Je suis ici pour chercher de l'or. Pour en trouver, ce n'est pas facile. Les études, ça on a abandonné. D'ailleurs, nous sommes nombreux, les enfants qui bossent ici. Nous arrivons dans les carrés miniers à 6h du matin pour sortir à 18h et des fois nous passons la nuit dans les tunnels pour repartir le lendemain matin. Le seul problème, c'est de tomber des fois malade. Or, moi j'ai 7 petits frères que je dois nourrir. Quand j'ai 10 000 francs le jour, je leur donne 5 000 francs.
5 000 francs congolais équivaut à moins de 4 dollars américains. Eric Ombeni a travaillé jadis dans les mines pendant son adolescence. Il en garde un souvenir amer.
J'ai eu à y travailler pendant 5 ans pour payer les frais scolaires. Imaginez-vous, vous êtes sous le sol. Parfois il y a des éboulements, parfois il y a des manques d'oxygène. Les gens meurent par asphyxie.
Pour les coordonnateurs de l'ONG locale Justice pour tous, Eric Tungano.
Il y a lieu de signaler qu'il y a des enfants parents. Beaucoup de parents n'ont pas d'emploi. La présence de ces enfants dans les mines, sur le plan sécurité, sur le plan épanouissement, il y a des problèmes. Vous savez, dans les mines, on utilise beaucoup d'outils, on utilise utilisent des méthodes, il y a ceux qui utilisent le mercure qui peuvent nuire à la croissance.
D'aucuns estiment qu'il faut un travail de synergie entre la police de protection de l'enfance, les services sociaux et les organisations de défense des droits de l'enfant pour arrêter l'hémorragie de Kamitoug en province du Sud Kivu. Ernest Moirou, VOA Afrique.
VOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Goma sur 96.2 FM.
Ici aux États-Unis, le ministre adjoint de la Justice a finalement accepté de nommer un procureur spécial chargé d'enquêter sur les liens présumés entre la campagne de Donald Trump et la Russie. Le président, lui, parle de cabale politique en réaction à cette nomination. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington Greg Wierzynski, ancien journaliste au Time Magazine.
Eh bien, c'est une petite surprise, mais en fait, tout pointait dans cette direction. Il y avait beaucoup de pression des deux côtés, du côté démocrate et un petit peu moins même du côté républicain. Mais en fait, il y avait une pression énorme dans le Congrès pour que un procureur spécial soit nommé.
La nomination de Robert Mueller, un ancien directeur du FBI, semble donc bien accueillie par les démocrates et les républicains. Quel sera son rôle?
Bien, c'est un homme d'une réputation sans reproche. Son rôle sera de faire une enquête approfondie sur les relations entre, s'il y en avait, des relations entre la campagne de Trump et des éléments russes. Et peut-être autre. La différence entre lui et M. Comey, enfin, qui était le patron de la FBI sortant, serait simplement que M. Mueller a un air d'indépendance plus assurée. Il n'est pas responsable directement au président. Il est un homme, je crois surtout par sa personnalité et son indépendance qu'il avait manifestée avant. C'est un homme qui a la crédibilité de faire une enquête que tout le monde pourra accepter.
Sa nomination n'empêche pas l'enquête du FBI et la police fédérale de se poursuivre tout de même.
Non, cette enquête sera poursuivie par la FBI. Seulement, lui devient le chef de l'enquête au lieu du directeur de la FBI, mais il utilise tous les mêmes moyens.
Et quelle implication politique cela peut avoir? On a vu le président Trump ce matin parler d'une cabale, d'une chasse aux sorcières contre lui.
Écoutez, ça peut aller dans toutes directions possibles parce qu'on ne sait pas encore quels seront les résultats. Enfin, tout dépend des résultats. S'il est exonéré, c'est un grand avantage pour Trump. S'il ne l'est pas, si l'enquête découvre des liens compromettants, ça pourrait éventuellement conduire à ce qu'on appelle ici un impeachment, c'est-à-dire une procédure pour le faire démissionner.
Voilà, c'était Greg Wierzynski, ancien journaliste au Time Magazine.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205. 2633. 001-202-205. 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RMShow. Ne ratez pas votre émission interactive RMShow chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Lionel Gaïma, Tianwan à la console, présentation Morgane Guiriec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.